Vous écoutez RTL.
Quand je me suis fait opérer, il m'a gardé 10 jours. Il venait me voir régulièrement dans ma chambre. Moi, j'ai beaucoup de trous noirs de cette opération. Il y a juste eu un geste déplacé. Mais on m'a dit que c'est un acte médical, de toute façon. Pas trop compris au début, parce que mais vraiment pas, en fait, parce qu'on me l'a vraiment fait passer comme ça. Puis c'est un médecin, donc en fait, on laisse son enfant quand même à quelqu'un de confiance.
Bonsoir, 312 victimes, moyenne d'âge 11 ans, 300 000 photos, films et documents saisis dans un ordinateur. Ces chiffres qui donnent le vertige font aujourd'hui de Joël Le Skouarnec le plus grand pédophile de l'histoire criminelle française. Pendant plus de 30 ans, ce chirurgien, reconnu pour son professionnalisme, a mené une vie parallèle, une existence suivant un chemin obscur menant à tous les abus, à des obsessions incontrôlables dont il s'auto-glorifiait, au point de tenir une comptabilité de ses actes interdits, méthodiquement retranscrits dans des carnets intimes. Jamais le mal n'aura été aussi discipliné et ordonné. Ce soir, avec nos invités, nous allons bien sûr retracer la trajectoire hors norme de Joël Le Skouarnec, mais surtout, essayer de savoir comment ce médecin a pu sévir de si longues années sans jamais être réellement inquiété, bénéficiant de l'omerta régnant dans sa propre famille, mais aussi de l'inertie des autorités médicales, pourtant alertées par quelques signaux. Joël Le Skouarnec a été condamné en 2020 par la justice pour 4 cas. Il a fait appel. Un autre procès d'ampleur inégalée, celui de ses carnets noirs, où figurent des centaines de victimes, pourrait être prochainement fixé. Ce mardi 2 mai 2017, Joël Le Skouarnec, 67 ans, n'a pas prévu de se rendre à l'hôpital de Jonzac. Il n'y exerce que 2 ou 3 jours par semaine. En qualité de chirurgien gastrique, depuis 2008, il n'a jamais attiré l'attention, n'a jamais fait parler de lui. Cet homme au crâne dégarni, qui porte des lunettes carrées, vit seul dans une maison blanche au centre-ville de Jonzac. Les rideaux sont le plus souvent tirés. Le docteur Le Skouarnec est quelqu'un de discret qui ne sort pas et semble éviter les conversations. On ne lui connaît pas d'amis ni de relations suivies. C'est un solitaire qui aime l'opéra. On entend parfois cette musique chez lui. Ce matin-là, à 8h30, ce sont les gendarmes qui sonnent à sa porte. Ils viennent l'interpeller suite à une plainte pour agression sexuelle et viol déposée le 25 avril à la brigade de Jonzac par ses voisins. Leur petite fille de 6 ans, présentée sous le prénom de Lucie, a raconté qu'elle jouait dans le jardin quand elle a vu le vieux monsieur qui vit à côté lui faire des signes. Le Skouarnec l'observait à travers une brèche dans la palissade, résultat d'un gros orage qui a entraîné la chute d'un arbre. La petite Lucie décrit l'homme comme un exhibitionniste qui lui a demandé de baisser sa culotte et qui a procédé à des attouchements. Le chirurgien suit sans aucune protestation les gendarmes. Il ne semble pas surpris. Il dira plus tard, concernant les faits, « Je savais les risques que je prenais ». Devant les gendarmes, le chirurgien de Jonzac ne cherche pas à dissimuler son attirance pour les jeunes enfants. Il indique qu'il n'a rien à cacher de ce côté-là. Le Skouarnec reconnaît ainsi qu'il a été condamné à 4 mois de prison et 90 euros d'amende le 13 octobre 2005 devant le tribunal de grande instance de Vannes. Il avait été identifié dans le cadre d'un coup de filet international, l'opération Falcon, conduite par le FBI américain, comme un client de sites pédopornographiques. Des photos avaient été découverte sur son ordinateur, sa condamnation n'avait été assortie d'aucune obligation de soins. Il pouvait continuer à exercer son activité de chirurgien comme avant, même au contact des enfants. Concernant la petite Lucie, il semble que Joël Le Skouarnec l'a guettée depuis quelque temps déjà. Le médecin indique qu'il l'a caressée, mais il assure qu'il ne l'a pas violée. Aucune pénétration digitale, contrairement à ce qu'indique l'enfant. L'intéressé tente-t-il coûte que coûte d'atténuer sa responsabilité. Le pédophile est incarcéré à la prison de Saintes. Bonsoir Lucas Burel.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime et d'être présent dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste à l'Obs. Vous avez consacré un grand dossier très détaillé et très très instructif sur cette affaire pour votre hebdomadaire. Alors on est là au tout début de l'affaire. Évidemment, on va voir dans le chapitre suivant quel secret cache cette maison. Pour l'heure, cela fait 9 ans que le Skouarnec exerce à Jonzac. 9 ans, c'est long. Mais on peut dire, Lucas Burel, que cet homme, c'est un passe-muraille. Finalement, on ne le connaît pas.
Oui, complètement. À Jonzac, personne ne lui connaît d'amis, encore moins de relations sentimentales. C'est un homme à l'allure un peu triste, un peu gris comme les murs de sa maison. Il est là depuis une dizaine d'années. Il occupe un pavillon assez délabré dans cette petite ville de Charente-Maritime, dans une petite rue sans passage. Et ces années à Jonzac sont la dernière étape de sa vie professionnelle, commencée une trentaine d'années plus tôt.
Lucas Burel, c'est une petite ville, Jonzac. Il n'y a pas de rumeurs qui courent autour de lui. On n'entend pas parler de cet homme.
Hein. Non,
même ses voisins disent, c'est peut-être même pas la tête qu'il a.
Exactement. C'est un chirurgien gastrique qui travaille, comme vous l'avez rappelé, que quelques jours par semaine. Il fait aussi des remplacements depuis plusieurs années. Il n'a pas vraiment réussi à créer de liens dans son entourage professionnel. Il ne va pas boire des verres avec ses collègues, par exemple.
Il n'est pas d'un naturel très liant, c'est le moins qu'on puisse dire.
Absolument pas.
Bonsoir, maître Thibaut Kurzawa.
Bonsoir, monsieur Richard.
Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de Joël Skouarnec. Maître Kurzawa, quand votre client est mis en garde à vue au mois de mai 2017, il est dans quel état d'esprit ce jour-là ?
J'ai eu affaire à une personne qui, directement, m'a fait part de son soulagement d'avoir été arrêté. Il va très rapidement se livrer aux enquêteurs et expliquer à quel point il est soulagé que la justice, au sens large du terme, et puis lui permettre de s'extraire de cette bulle dans laquelle il était enfermé depuis plus de 30 ans maintenant. Et donc c'est effectivement un véritable soulagement pour lui d'avoir la possibilité de tenter de comprendre comment il a pu en arriver là et comment il a pu devenir l'homme qui est celui qu'on connaît aujourd'hui.
Maître Francesca Satta, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être dans le studio ce soir de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate des parents de la petite voisine de l'ex-chirurgien. Et c'est elle finalement qui va déclencher toute cette affaire. Et c'est grâce à cette plainte que cette affaire incroyable va surgir. Alors, on entend votre confrère, maître Kurzawa, il est soulagé. Pourtant, on peut dire qu'il observe cette petite Lucie comme une proie, et depuis longtemps, sans doute.
Je dirais que le soulagement, c'est déjà le soulagement des victimes. De savoir qu'un homme, enfin, je veux dire, est arrêté. Enfin, va arrêter ses exactions sur un certain nombre d'enfants. Mmh. Et c'est grâce à cette petite Lucie qu'on va avoir, je dirais, l'ouverture de la boîte de Pandore. C'est grâce à elle qu'on va découvrir enfin la face cachée de Joël Le Skouarnec. Cette face qui est cachée, comme l'indiquait le Nouvel Observateur. C'est vrai que nous sommes face à une personne qui, sous tout rapport, ne fait pas parler de lui.
Et lisse.
Lisse. Trop lisse, au demeurant.
Trop lisse.
Beaucoup trop lisse, avec une absence de vie sociale totale, dans une petite ville comme Jonzac, où il est quand même très simple, je dirais, de se lier d'amitié avec les uns et les autres, surtout quand on a une fonction comme la sienne, de chirurgien. À l'hôpital de Jonzac, cet homme est dans l'obscurité, et c'est grâce effectivement à Lucie qu'on va découvrir la vérité.
Et il faut souligner, maître Satta, qu'il faut un sacré courage pour porter plainte dans ce cas-là. Parce qu'on sait que ça va être des ennuis. On sait que ça va être des ennuis.
Absolument, absolument.
Et la famille a bien réagi.
La famille a réagi. Je crois qu'on a eu, je dirais, les écoutes du père et de la maman qui ont été très très importants dans cette histoire. Car quand Lucie va revenir du jardin et que sa maman va constater un comportement différent de sa fille, tout de suite, elle aura, je dirais, cet instinct presque de comprendre qu'il s'est passé quelque chose de grave dans le jardin, mais quoi ?
Joël Le Skouarnec semble alors prêt à répondre aux questions des enquêteurs. Il ne se doute pas toutefois que ses secrets les plus intimes et les plus effrayants vont lui donner très vite une toute autre notoriété. Dans la foulée de l'interpellation de Joël Le Skouarnec, les gendarmes visitent la maison à un étage, rue Lucien Brard à Jonzac. Ils tombent sur un décor qui donne le tournis. Depuis des années, le médecin ne vit que dans les deux pièces du rez-de-chaussée, un réduit sombre, sale, qui pue l'humidité. Deux pièces meublées de façon spartiate, peuplées de poupées de toute taille, achetées dans des magasins de jouets dont certaines sont pourvues de menottes. Il dira les appeler ses petites filles, les habiller, leur offrir des cadeaux, faire avec avec elle la conversation sur le canapé et couché avec sa préférée, Véronique, qui mesure près d'un mètre. Partout, des sextoys, des perruques ou des photos de lui-même où il pose nu. Dans son ordinateur, les gendarmes exhument pas moins de 300 544 vidéos et photos pédopornographiques collectées sur Internet, rangées par thème. L'œuvre d'un collectionneur frénétique. Sur certaines vidéos, il se met en scène travesti, portant un tutu dans lequel il pose dans le jardin de la maison. Un jardin lui aussi laissé à l'abandon et gagné par les mauvaises herbes. Le chirurgien rédige encore des espèces de romans, des journaux numériques au titre qui ne laisse pas de place au doute. Avec mes petites danseuses, mes lettres pédophiles ou encore petite fille de l'île de Ré. La perquisition est éloquente, mais ne s'arrête pas là. Les gendarmes découvrent sous les lattes du parquet les journaux intimes du médecin. « Je ne pensais pas qu'on les trouverait », confiera-t-il lors d'une audition. Depuis le collège, Joël Le Squarnec avait l'habitude de consigner ses moindres faits et gestes, ses visites de musées, les livres lus, tel ou tel opéra entendu. Pendant 28 ans, de 1989 à 2017, le docteur Le Squarnec a ainsi noté, à la façon d'un greffier maniaque, ses agressions sur les enfants, les abus sexuels, les endroits où ils ont été perpétrés, très souvent dans les hôpitaux où il exerce. Des milliers de pages griffonnées qui résonnent comme autant d'aveux avant l'heure. « Il faut être patient et compter sur sa chance », écrit-il pour raconter les chasses aux petits patients admis à l'hôpital. Le journal Le Monde livre ainsi quelques extraits de ses écrits. « 14 mai, 10h20, quand je suis entré dans la chambre de N, j'ai eu l'agréable surprise de la trouver seule. J'y suis donc retourné pour en profiter. » S'ensuit la description des abus. Le médecin note encore « L'avantage des petites filles de cet âge, soit entre 3 ans et 10 ans, c'est qu'on peut les toucher sans qu'elles ne se posent trop de questions. À la date du 3 décembre, la date de son anniversaire, Le Squarnec écrit en lettres capitales « Je suis pédophile ». Lucas Burel, journaliste à l'Obs et auteur d'une très longue enquête sur le médecin de Jonzac. Alors, on ne va pas préciser davantage tous les faits qui sont mis au jour par les gendarmes, parce que ça, un, ça donne la nausée, et deux, ça serait du voyeurisme. On ne va pas du tout rentrer là-dedans, ce n'est pas le but de cette émission. Alors, il y a ces carnets noirs. Il faut dire quelque chose, Lucas Burel, c'est qu'en manière criminelle, un tel amas de témoignages aussi précis, aussi détaillés, c'est rarissime.
C'est rarissime, et j'ai même envie de vous dire qu'on les a baptisés carnets noirs. En vérité, il s'agit plutôt de journaux intimes ou de carnets de bord, moi j'ai envie de les appeler, parce que vous l'avez rappelé, ce sont des carnets qui sont tenus année après année, du 1er janvier au 31 décembre, selon un mode d'écriture qui est toujours le même. C'est extrêmement méticuleux, c'est aussi ça qui va laisser penser les enquêteurs qui sont vraiment face à quelqu'un qui est hors du commun. Il ne s'agit pas d'un simple pédophile avec cette histoire de la petite voisine, aussi grave soit-elle, il s'agit vraiment de quelqu'un qui a couché sur papier 30 années d'activité, 30 années de fantasmes et d'agressions avec un soin tout à fait hors du commun.
Maître Francesca Satta, avocat d'une partie civile et notamment de la famille de la petite fille qui a dénoncé le médecin, un mot sur cette méthodologie. C'est absolument effrayant, mais il y a quelque chose en plus chez Le Squarnec, c'est qu'il fait très attention à ce qu'il fait. Il cache les faits, il ne veut pas se laisser prendre, il dissimule en permanence.
Mais il cache les faits parce qu'il a déjà, je dirais, eu entre guillemets un premier avertissement quelques années en arrière, à Vannes, où il avait quand même une condamnation pour détention d'images pédopornographiques. Donc il ne faut pas s'éloigner non plus de ce contexte, et il a très bien compris que la détention de ces images, effectivement, est pour lui un risque et une preuve fatale de le faire retomber, effectivement, dans une autre affaire pénale. Mais là, on va plus loin parce que, en dehors de Vannes, on est passé, je dirais, à une échelle supérieure. On a un homme qui, effectivement, est très méthodique, qui va prendre le temps d'approcher ses victimes. Ça va être le cas pour la petite voisine. Je veux dire, il va prendre le temps d'attendre que cette palissade s'effondre sur une certaine partie du Haut-Vent pour enfin pouvoir voir visuellement sa victime, alors qu'avant il ne l'entendait. Je dirais qu'il fantasmait sur elle derrière la palissade. Mais là, au moment où la palissade s'écroule, il a enfin le visuel sur celle-ci. Et c'est ainsi, petit à petit, qu'il va attendre, effectivement, si on prend cet exemple-là, il va attendre que les parents soient dans la maison pour s'approcher petit à petit de cet enfant, la capter, capter son attention, l'attirer vers lui et pouvoir effectivement en profiter.
Ça ressemble beaucoup à un serial killer.
Oui, c'est quelque part...
Il y a cette méthodologie, cette espèce de prédateur qui guette.
Absolument.
Ça, c'est frappant chez lui.
Absolument. Il prend le temps qu'il faut, il le fera pour toutes les autres victimes avant elle. Il prend effectivement ce temps de les étudier, d'attendre le moment fatidique où personne ne peut le voir ou le surprendre, et il passe à l'action.
J'aimerais qu'on entende Thibaut Kurzawa, qui est en ligne dans l'heure du crime, un mot sur ces carnets noirs maîtres, qui sont d'ailleurs toujours, je le rappelle, l'une des pièces de la procédure qui est toujours en cours d'instruction, il faut bien le préciser.
Ce sont effectivement des écrits qui sont en quantité extrêmement importante, extrêmement difficile à lire, à cerner, à appréhender. Monsieur Le Scornec lui-même le sait, il n'est pas là-dessus, il sait que ce qu'il a écrit c'est absolument abominable. Néanmoins, comme je l'ai indiqué, cette pièce de procédure fait l'objet aujourd'hui d'une instruction séparée et Monsieur Le Scornec sera effectivement interrogé en temps voulu sur ces fameux écrits.
Lucas Burel, un mot là-dessus, c'est encore très court, mais toutes ces victimes qui sont notées avec souvent des initiales, etc., dans ces carnets, elles ont été identifiées ou pas ?
Alors, malheureusement, on peut supposer qu'elles n'ont pas toutes été identifiées. Une des pièces principales de l'accusation, si j'ose l'appeler ainsi, ce sont deux répertoires, en fait, parce que dans les écrits de Joël Le Scornec, en plus de ses carnets de bord, on retrouve deux répertoires qu'il a baptisés, je reprends ces mots, Kékette et Vulvette. Dans ces deux listes figurent 250 noms qui correspondent à des patients qui sont passés par des hôpitaux où il a exercé. Donc à ce moment-là, les enquêteurs se disent on tient quelque chose qui est vraiment important et qui ne relève pas que du fantasme chez lui.
Le docteur Le Scornec est écroué. Il va être entendu à plusieurs reprises par les enquêteurs et par des psychiatres qui vont reconstituer le fil d'une vie presque entièrement vouée à ses obsessions. Dès le début des auditions, le docteur Le Scornec admet spontanément des attouchements sur 5 petites filles. Des faits anciens, pour la plupart prescrits, perpétrés sur des enfants d'amis ou dans le cercle familial. Pour ce qui concerne de jeunes patientes, il évalue alors le chiffre à 3 ou peut-être 4 victimes, sans se douter que ces carnets noirs vont révéler un tout autre bilan et mettre au jour sa trajectoire. C'est au milieu des années 80, alors qu'il a 35 ans, que Le Scornec identifie le déclic qui va faire de lui un pédophile en série. La petite fille de Sylvie, la sœur cadette de son épouse Marie-France, s'assoit sur ses genoux. Dès lors, il va l'agresser plusieurs fois, lui imposer des caresses sous prétexte de leçons de piano. Des années plus tard, face aux gendarmes, la victime dira que face à cet homme au statut supérieur, elle n'était rien. Deux autres nièces, les filles d'Annie cette fois, sa propre sœur, sont également agressées. Vont suivre des enfants d'amis et des petits patients surpris dans les hôpitaux dans lesquels il exerce, successivement Loches, Vannes, Quimperlé, Lorient et enfin Jonzac. Rien ne semble pouvoir troubler ces journées qui s'enchaînent, focalisées sur son obsession pédophile et la chasse aux enfants, une activité en fait pas si clandestine que cela. À la lecture des cahiers secrets de Joël Le Scornec, il apparaît que dès 1996, son épouse a découvert le poteau rose après avoir trouvé un dessin suggestif trouvé dans une poubelle. Marie-France a alors demandé à son mari de se débarrasser du contenu d'une grosse armoire dont lui seul détient la clé. « Je ne veux pas savoir ce que c'est, vide tout et fais-toi soigner », lui aurait dit sa jeune femme. Le Scornec déménage alors son contenu, des documents, des photos, des journaux intimes, ses poupées, tout cela dans le bureau de la clinique du Sacré-Cœur à Vannes. Sa sœur Annie, alertée par sa fille de 10 ans des agissements de son oncle Joël, va elle chercher à avoir des explications. Elle se retrouve seule avec Le Scornec en voiture. Il se met à pleurer, fume cigarette sur cigarette. Il reconnaît des agressions sexuelles mais jure qu'il n'a jamais eu l'impression de faire du mal. Il précise que Marie-France, son épouse, est au courant de ses pulsions. Annie l'encourage à voir un médecin. La police ne sera jamais prévenu de ses agissements et le chirurgien ne se fera jamais soigner. Il va continuer à agresser des enfants. En 2004, il passe dans le secteur hospitalier public. Son CV est élogieux et flatteur. Après Lorient, il postule à Quimperlé où il est titularisé sans la moindre difficulté. Maître Thibaut Kurzawa, vous êtes ce soir en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de Joël Le Scornec, je le rappelle. Alors, je viens de parler de ce déclic au milieu des années 80. Est-ce que c'est vraiment à ce moment-là, réellement, que sa dérive sexuelle et criminelle s'est déclenchée ?
Nous sommes dans les années 80 et il sent qu'il a effectivement une attirance pour les personnes mineures. Et à partir de là, toute sa vie tournait autour de ça. Tous ses faits et gestes étaient dictés par la recherche de photos, de vidéos à connotation pédopornographique. Ses lectures passaient par ça également. Le reste était relayé au second plan. Sa vie professionnelle, c'était secondaire. Sa vie familiale, c'était secondaire. Et sa priorité, c'était effectivement d'assouvir ses besoins qui étaient effectivement de nature sexuelle. Et ça passait notamment par des connexions Internet à n'importe quelle heure, des recherches de photos, de vidéos, des nécessités de se mettre en scène et de se filmer. Parce que il était obsédé par ça. Et il ne vivait que pour ça.
Alors, on comprend bien cette obsession. Maître Francesca Satta, avocate des parties civiles et de la famille, qui a dénoncé toute cette histoire, la première plainte qui a été déposée dans ce dossier. On reste pour l'instant dans le cercle familial. C'est très intéressant, parce que beaucoup de personnes autour de Le Scornec savent ce qu'il fabrique et quelles sont ses pulsions. Et pourtant, on ne dit rien. Une omerta parfaite.
Une omerta parfaite qui lui a profité. Grâce à cela, je dirais, grâce au silence de sa femme, grâce au silence aussi de sa sœur. Il a pu évoluer en toute impunité au sein de cette famille parce qu'il représente quand même le chirurgien qui a réussi sa vie professionnelle. C'est quand même pas rien. Il a effectivement le respect de sa femme, il a le respect de ses frères et sœurs. Il est véritablement considéré et mis sur un piédestal. C'est l'homme qu'on ne peut pas, je dirais, attaquer, détrôner, parce que ça serait remettre en cause toute la crédibilité sociale de la famille, représente
quand même. C'est celui qui a réussi aussi dans la famille.
Mais c'est voilà. Lui, il a réussi, il est adulé par sa famille. Sa femme a quand même une réaction tout à fait particulière, c'est celle qui ne veut pas voir et qui ne veut pas savoir.
La fameuse armoire fermée à clé.
Voilà, elle sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui, effectivement, est sans doute de l'inaudible, etc. Mais elle ne veut pas franchir le pas, elle ne veut pas ouvrir cette porte, elle ne veut pas voir ce qu'il y a derrière. Et c'est très significatif parce que toute la famille suit le même mouvement. Toute la famille a le même comportement de rester effectivement dans ce désir de ne pas savoir, de ne pas vouloir voir, parce qu'on sait intérieurement qu'il y a un problème et que ce problème est gravissime. On le sait pourquoi ? Parce qu'on a entendu les petites nièces se plaindre. On a entendu des choses qui sont horribles au sein de la famille, mais on ne veut surtout pas que cela s'ébruite.
On garde le secret.
Et oui.
Qu'est-ce qu'elle va raconter lors de l'instruction, l'épouse de Le Scornec, là-dessus, sur son silence ? Qu'est-ce qu'elle va dire ?
Elle dira qu'elle n'était pas au courant de l'activité de son mari, qu'elle ne savait pas avec exactitude ce qu'il pouvait faire, que lorsqu'elle va découvrir ce dessin dans la corbeille, ce n'est pas un élément suffisant pour dire « j'étais au courant exactement de ce qu'il faisait au quotidien ». Donc, elle se réfugiera derrière cela. Parce que, quelque part, vouloir reconnaître la vérité, vouloir dire qu'effectivement, elle ne pouvait pas ne pas savoir, c'est quelque part peut-être se dire j'ai cautionné un crime.
C'est aller trop loin, il fallait que je le dise avant ou voilà, c'est ça. C'est ce qu'elle va dire, d'ailleurs, elle va dire parler maintenant ou se taire à jamais.
Elle a décidé de se taire à jamais.
Et elle a décidé de se taire à jamais. Maître Kurzawa, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime, on écoute Maître Francesca Satta, avocate des parties civiles. Je vous retourne la question. Est-ce que sa sœur, Le Scornec, aurait pu le dénoncer ? Elle l'avait sous la main dans cette voiture, elle aurait pu le dénoncer ?
Alors, il y a eu effectivement, de la part de M. Le Scornec, des paroles qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'appel à l'aide, d'appel au secours, sur des événements qui ont pu être cités dans le cadre familial où Monsieur Le Scornec a tenté d'attirer l'attention de sa famille sur ses dérives, mais malheureusement, Monsieur Le Scornec n'a pas eu la force d'aller au-delà. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que cette arrestation en mai 2017 est vécue comme un soulagement parce que lui-même, de son propre chef, n'est pas parvenu à enrayer cette spirale dans laquelle il s'était enfermé. Et malheureusement, sa famille, mais encore une fois, ce n'est pas un reproche, mais peut-être n'a-t-elle pas su réagir comme il le fallait aux énonciations de M. Le Scornec.
Alors, c'est peut-être un euphémisme, là, on peut en parler longtemps, mais enfin bon, la famille n'est pas réagi, ça. Effectivement, en tout cas, c'est une réalité. Lucas Burel, journaliste à l'Obs, on peut dire qu'à ce moment-là, les enquêteurs, ils tombent de l'armoire, j'ai envie de dire, parce que effectivement, tout le monde sait, personne ne dit rien. Ça a échappé à beaucoup de monde, et pendant des années, 30 ans.
Alors, ce qui est frappant, c'est que le scénario de l'Omerta, qu'elle soit familiale ou professionnelle, malheureusement, c'est un scénario assez classique dans ce type de dossier. Là, ce qui frappe, c'est véritablement que pendant une vingtaine d'années, des membres de la famille, chacun de leur côté, que ce soit entre eux ou directement avec Joël Le Scornec, vont s'exprimer, vont exprimer des doutes ou vont se transmettre un peu ces secrets de famille entre deux portes. Et on a le sentiment qu'à aucun moment, comme à la façon des pièces de puzzle, en fait, rien n'a pu s'emboîter au bon moment de la bonne façon pour le mettre face à la réalité, pour le forcer à se soigner ou à se rendre devant la justice.
Encore un petit mot, Maître Sata, très court, il n'y a pas eu une procédure de non-dénonciation de crime qui a été lancée ?
Si. Qui est au dossier.
Qui est en cours en ce moment.
Qui est en cours d'instruction.
Un passé judiciaire et des aveux qui vont conduire rapidement Joël Le Scornec devant les assises. Il comparaît pour abus sexuels sur 4 petites filles. L'occasion de comprendre comment le chirurgien est passé entre les mailles du filet. Le lundi 30 novembre 2020, le docteur Joël Le Scornec, 70 ans, comparaît devant la cour d'assises de la Charente-Maritime à Saintes pour abus sexuels et viols sur 4 petites filles. Sa voisine de 6 ans, dont les parents ont porté plainte au printemps 2017, enquête qui a révélé la trajectoire du pédophile, deux de ses nièces qui avaient entre 4 et 5 ans à l'époque des faits, et également une patiente qui avait 4 ans quand elle avait été agressée à l'hôpital de Loches. Le procès se tient à huis clos. Il va durer 4 jours. Joël Le Scornec, selon les paroles des avocats, aurait sans cesse oscillé entre des trous de mémoire et des aveux mûrement réfléchis, des aveux stratégiques, estime Céline Astolf, avocate de la Fondation pour l'Enfance, partie civile. Le Scornec a acquis tout ce qui est mentionné dans ses écrits sans pour autant les narrer et même les contester, et même contester des faits qu'il n'a pas consigné par écrit, dit-elle. Son avocat, Maître Kurzawa, assure que son client n'a pas le souvenir de ces faits. Le Scornec est condamné à 15 ans de réclusion. Il accueille le verdict sans montrer le moindre signe d'émotion. Premier procès pour le chirurgien de Jonzac, qui, avant d'en arriver à ce stade, est donc passé pendant une trentaine d'années entre les mailles du filet judiciaire et professionnel. Sa condamnation à Vannes en 2005 pour possession d'images pédopornographiques aurait dû alerter l'administration des hôpitaux, mais il n'en a rien été. Tout au contraire, le médecin prend ses quartiers à Quimperlé. Un an plus tard, l'un de ses confrères prévient le Conseil de l'Ordre. Joël Le Scornec serait mêlé à une affaire de pédophilie. Il fait front et s'explique. À un collègue qui lui demande de démissionner, il répond « On ne peut pas m'y obliger ». À Jonzac, où il débarque en 2008. Il avoue avoir regardé ces images par détresse personnelle suite à la séparation d'avec sa femme. La direction de l'hôpital ne cherche pas à en savoir plus, trop heureuse d'avoir déniché un chirurgien. L'ancienne directrice dira qu'il ne lui avait pas semblé nécessaire de prendre des précautions particulières. Le Scornec ne sera visé par aucune sanction, aucune interdiction venue de l'hôpital, du Conseil de l'Ordre ou encore du ministère. Maître Francesca Sata, avocate de la partie civile, pourquoi ce premier procès ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu finalement l'examen de ces fameux carnets pour faire un procès global ?
On aurait pu, mais cela voulait dire qu'on attend encore un certain nombre d'années d'instruction de dossiers et il était sans doute nécessaire qu'on puisse apporter une première réponse pénale, je dirais, par rapport à la petite voisine. Nous intervenons sur un premier procès qui arrive presque 4 ans après une instruction qui a déjà été longue et je pense que stratégiquement, On a voulu d'abord faire un premier pas et une première sanction pour Joël Le Squarnec. Puis je pense aussi qu'on n'avait pas mesuré toute l'ampleur du dossier à l'époque. Et que ce n'est que plus tard qu'on appréciera effectivement l'ampleur de celui-ci et le nombre de victimes qu'il représente.
Alors, procès à huis clos, évidemment, la presse n'était pas sur les bancs de l'audience. Procès à huis clos, parce que ce sont des mineurs qui sont mis en cause, il faut le préciser. Quel visage montre-t-il Le Squarnec à ce procès ?
Je dirais un visage placide. On n'a pas quelqu'un qui est expressif, ce n'est pas une personne qui démontre ses émotions, même si on le pousse dans ses retranchements. Les seules émotions qu'on va pouvoir voir, je dirais, dans son regard, et quand on peut parler véritablement d'émotions, c'est lorsqu'il va entendre ses petites nièces devenues femmes s'exprimer à la barre et raconter véritablement dans le détail ce qu'elles ont pu subir. Là, on verra une once, je dirais, de réaction de sa part, mais tout au long du procès, il va rester figé, je dirais, dans sa position, répondant aux questions qui lui sont posées, attendant pour répondre, de voir effectivement l'avancée du procès, afin de ne pas mettre toutes ses billes en avant d'un coup, tel un joueur d'échecs.
C'est de la stratégie, ça.
C'est complètement stratégique. Moi, je l'ai senti comme ça dès les premières heures d'ouverture du procès. C'est un homme stratège qui va d'abord étudier, je dirais, le terrain dans lequel il se trouve avant de pouvoir avancer ses pions au fur et à mesure, en fonction des réactions qu'il va avoir en face de lui.
Maître Thibaut Kurzawa, vous êtes, vous, l'avocat de Joël Le Squarnec. Je vous pose la même question. Quelle est l'attitude à son procès ? Vous y étiez, évidemment. Il reconnaît les faits, il s'excuse. Quelle attitude a-t-il ?
À l'exception des faits qui concernent sa voisine, M. Le Squarnec a reconnu les faits. Il avait promis, en amont de ce procès, qu'il allait parler. Il savait effectivement que ses nièces et d'autres personnes l'attendaient des explications de sa part, des excuses aussi, même si il est conscient que les excuses ne répareront jamais ce qu'il a pu leur faire. Mais M. Le Squarnec a tenu ses promesses, puisqu'effectivement il s'est exprimé longuement, il a avoué les faits, tous aussi sordides les uns que les autres, il les a décrits, il a demandé pardon. Donc c'est en ça que l'attitude de M. Le Squarnec au procès a été aussi remarquée.
Alors, évidemment, Le Squarnec qui demande pardon. J'ai envie, avec vous, Lucas Bural, journaliste à l'Obs, quand même de revenir un petit peu sur cette impunité dont il a bénéficié pendant 30 ans. On a parlé de l'omerta de la famille, mais il y a aussi l'omerta médicale. Parce que là, il passe complètement à travers les mailles du filet, Le Squarnec. Il va d'hôpital en hôpital, on ne lui demande rien, même pas un extrait de casier judiciaire.
C'est ça, il va faire une vingtaine quand même d'établissements à travers plutôt l'ouest de la France et la Bretagne. Et à chaque fois, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il donne le sentiment d'être un petit peu ce médecin qui tombe du ciel. Il travaille dans des territoires qui parfois sont touchés par ce qu'on appelle la désertification médicale. Et c'est vrai qu'un médecin gastrique, un chirurgien comme ça, qui arrive, qui présente son CV, ben on n'a pas forcément envie de lui poser beaucoup de questions, même quand on sait par un peu les oui-dire parfois aussi, qu'il y a eu dans son passé des éléments qui auraient mérité d'être interrogés au moment de son embauche. Néanmoins, il y a quand même, un moment de bascule, c'est après sa condamnation en 2005. Puisque à partir de là, Maître Sata l'a rappelé tout à l'heure, il ne faut pas sous-estimer la peur qu'a pu lui inspirer cette condamnation. D'autant plus que dès l'année suivante à Quimperlé, il se trouve qu'il y a une situation particulière dans cet hôpital où il est, où un autre chirurgien, un autre médecin est concerné par des accusations de viol sur des patients, et il va attirer l'attention en le défendant. C'est-à-dire que l'ensemble de l'établissement va évidemment être extrêmement choqué par les accusations qui visent cet autre confrère, et lui au contraire va plutôt se distinguer par une forme de sympathie à son égard. Et c'est à partir de là que ses collègues vont commencer à s'interroger.
À se poser des questions. En quelques mots, Maître Francesca Sata, le Conseil de l'Ordre a manqué de vigilance dans cette histoire, les autorités médicales ?
Je pense que, outre le Conseil de l'Ordre, avant toute chose, les directeurs d'hôpitaux qui ont eu affaire à Joël Le Squarnec les uns après les autres ont été, je dirais, très lascifs par rapport à son attitude au sein des hôpitaux. On ne peut pas imaginer vu le nombre d'heures que passait Le Squarnec dans les couloirs des hôpitaux et dans les chambres des patients, personne n'ait rien vu, ni infirmière, ni aide-soignante, ni même autre confrère, sur une attitude qui pouvait laisser supposer ou poser question, personne n'a réagi. Un psychiatre va réagir. Un psychiatre va prendre la parole et va effectivement aller voir son directeur en énonçant que Joël Le Squarnec a une attitude qui est particulière avec ses patients mineurs. Mais le directeur de l'hôpital à l'époque ne fera pas remonter effectivement l'affaire et elle va, je dirais, s'éteindre. Alors que c'est peut-être le seul confrère qui a eu le courage, effectivement, à un moment donné, d'essayer d'alerter sa direction sur la situation.
Joël Le Squarnec n'en a pas fini avec la justice. Il a fait appel de sa condamnation et surtout, il est sous la menace d'un autre procès fleuve, celui de ses carnets noirs et de ses 300 victimes. Avant son premier procès, détenu à la prison de Saintes, à l'isolement dans une cellule de 9 mètres carrés partagée avec un co-détenu, Joël Le Squarnec passait son temps à peindre des aquarelles représentant le Mont Saint-Michel et à étudier l'anglais. Il peut désormais se préparer à d'autres échéances judiciaires, sa comparution en appel, mais surtout un procès fleuve dont la date n'est pas encore fixée. Le procès aux assises de ces carnets noirs et des 312 victimes qui y figurent, bon nombre ont déjà été identifiées et la plupart mineurs au moment des faits ont porté plainte. Les carnets de l'horreur, aveux écrits, seront donc au centre de ce rendez-vous. Lors de l'enquête, le procureur de Lorient, Stéphane Kellenberg, parlait de tableaux, de fichiers informatiques chronologiquement établis, classés, conservés depuis plus de 25 ans, avec des victimes le plus souvent endormies qui ne se rendaient pas compte des agressions qu'elles subissaient. Si les faits étaient avérés, ce serait alors le plus gros dossier de pédophilie en France, constaté à l'époque maître Francesca Satta, avocate des victimes. La justice n'en a donc pas terminé avec Joël Le Squarnec, personnalité longtemps insondable, murée dans le silence en évoquant son enfance. Les psychiatres qui l'ont examiné parlent d'un sujet manipulateur, fasciné par la pédophilie, d'une personnalité inhibée, égocentrique et obsessionnelle qui n'exprime aucune empathie envers autrui. Son fonctionnement psychique procure un réel risque de transgression des interdits fondamentaux, ajoutent les experts, selon lesquels Joël Le Squarnec considère autrui comme un objet et ne ressent aucune culpabilité pour ses victimes. Lucas Burel, journaliste à l'Obs, vous avez consacré pour votre hebdomadaire un très long dossier sur Joël Le Squarnec, une très longue enquête. Sait-on aujourd'hui qui est vraiment Joël Le Squarnec après tous ces mois d'investigation et les questions qui lui ont été posées?
Ça reste un individu assez mystérieux. En vérité, il a eu plusieurs facettes au cours de l'enquête qui sont apparues aux yeux des enquêteurs. Il y a eu ce côté socialement très établi dans les premières années. Il a habité un temps un manoir qui était ouvert aux amis, à la famille, et où les agressions ne concernaient dans un premier temps que un cercle assez intime, des nièces, des enfants d'amis. Puis il y a eu ce chirurgien qui a agressé des enfants de façon presque quotidienne, avec cette chasse à travers les couloirs des hôpitaux. Et puis il y a eu cette dernière partie de sa vie qui correspond aux 10 années à Jonzac, qui là, selon moi, correspondent aussi à un effondrement à la fois intellectuel et physique de Joël Le Squarnec, puisque les enquêteurs ont établi que le nombre d'agressions avait diminué.
Mais elle continue quand même.
Alors, il n'y a plus d'agressions à partir de 2015, et entre 2010 et 2015, les agressions ont diminué. Mmh. Et à mesure que ces agressions diminuaient, il semble que Joël Le Squarnec se soit enfermé un peu tout seul, dans une sorte de prison, dans une bulle. Nous, dans l'Obs, on l'avait appelé le reclus de Jonzac, parce qu'il vivait véritablement essentiellement pour sa pédophilie. Il a même écrit dans ses carnets une phrase qui est terrible, qui est « J'assumerai jusqu'au bout qui je suis, le pédophile que je suis, et venez me chercher ». Et quelque part, il a placé sa sexualité, ce qu'il appelle sa sexualité préférentielle, en fait la pédocriminalité, mais il l'a placé au-dessus de tout. Et je crois qu'aujourd'hui, il est un petit peu chaque période correspond à la personnalité qu'il a aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Il a tronçonné un petit peu son existence. Et puis, il y a eu cette alerte, on l'a dit tout à l'heure, avec cette première plainte qui avait été déposée. Maître Kurzawa, vous êtes l'avocat de Joël Le Squarnec. J'ai cité les experts psychiatres dans cette affaire. Que pousse. D'ailleurs, le profil psychologique sera au centre du procès qui viendra sans doute dans quelques mois ou quelques années. Que pouvez-vous nous dire, vous, de cet état psychologique de votre client ?
Alors, on a beaucoup insisté sur ce dont souffrait M. Le Skouarnec, qui a été qualifié comme la tyrannie du besoin. C'est quelqu'un qui était, encore une fois, enfermé dans une bulle, hein, c'est le mot qui est employé, une bulle qui l'a en fait coupé de tout, de telle sorte que le monde extérieur pour lui n'avait finalement plus aucune importance. Il allait au travail, voilà, comme il l'a toujours fait, mais le problème, c'est que son travail ne l'intéressait plus. La nuit, il passait des heures, effectivement, comme je l'ai indiqué, à écrire, à dessiner, à se mettre en scène et enfin à se filmer dans des positions, dans des postures qui ont déjà été décrites. Hein. Sa vie familiale était réduite à néant et c'était effectivement cette tyrannie du besoin qui a été mise en avant par les experts et qui effectivement colle tout à fait, si je puis dire, au profil de M. Le Skouarnec.
Et Maître Kurzawa, encore une question. J'ai cité votre consoeur qui est avec nous ce soir d'ailleurs dans le du crime, Maître Sata. Si les faits étaient avérés, ce serait alors le plus gros dossier de pédophilie en France. Vous êtes d'accord avec cette description ?
Vous dire aujourd'hui que vous avez affaire au plus grand, au deuxième plus grand, au cinquième plus grand pédophile de l'histoire de l'humanité, ça ne rime absolument à rien. Encore une fois, j'ai affaire à un homme qui est présumé innocent, qui va être jugé pour des faits qu'il reconnaîtra ou qu'il ne reconnaîtra pas d'ailleurs. Mais pour le moment, je pense qu'il est temps quand même de rester un petit peu prudent sur ces qualificatifs exagérés, inappropriés et parfois même qui manquent cruellement d'humanité. Et je pense qu'il faut effectivement laisser la justice faire son travail et le temps aussi faire un petit peu les choses.
En quelques mots, comment votre client vit-il sa détention aujourd'hui ?
Il vit sa détention dans des conditions qui sont compliquées, puisqu'en plus de ça, il est à l'isolement. C'est quelqu'un qui est protégé pour justement éviter qu'il soit mis dans une situation de danger. Donc ce sont des conditions qui sont particulières. Et en même temps, il profite de cette incarcération pour tenter d'avancer sur le plan psychologique et psychiatrique pour comprendre, encore une fois, son passage à l'acte, ses passages à l'acte.
Maître Francesca Sata, justement, vous êtes dans le studio de l'heure du crime. C'est vous qui aviez dit, à l'issue du procès, je crois, si les faits étaient avérés, ce serait le plus gros dossier de pédophilie en France. Vous maintenez cette analyse ?
Je maintiens mon analyse parce que je dis bien, et visiblement ça a dû échapper à mon confrère, je dis bien, si les faits étaient avérés. Donc je n'ai pas dit les faits sont avérés, entendons-nous en langue française, les faits sont avérés et effectivement monsieur Joël Le Skouarnec a commis un certain nombre, 312 crimes de viol sur viol pédophile sur des mineurs. Nous avons une instruction en cours, cette instruction démontrera la véracité des propos qui sont tenus par toutes ces victimes, qui ne sont pas des fantasmes et qui existent aujourd'hui, pour la plupart, se sont constitués partie civile, auront effectivement à raconter leur histoire. Joël Le Skouarnec aura à y répondre. Et un juge d'instruction est en charge de ce dossier et fera son travail comme il se doit pour que la vérité effectivement éclate.
J'ai envie de vous poser la même question qu'à Lucas Burel, journaliste à l'Obs. Est-ce que vous savez aujourd'hui, après la lecture du dossier, vous y avez accès, vous avez vu tous ces interrogatoires, vous y avez participé, vous étiez au procès. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui est Le Skouarnec ?
Moi, je dirais que nous n'avons pas encore véritablement toutes les facettes du personnage. Et je pense que le deuxième volet de cette affaire, c'est-à-dire le deuxième volet Lorient, concernant les autres victimes,
le gros procès, c'est ça ?
Le gros procès futur, permettra sans doute de dévoiler dans son intégralité qui est véritablement Joël Le Skouarnec.
En un mot, c'est un gâchis. On aurait pu l'empêcher de nuire avant, si toutes les lumières s'étaient allumées.
Si on avait voulu ouvrir la porte d'une armoire qui avait existé dans son bureau et qui aurait pu être ouverte et qui permettait effectivement à de nombreuses victimes de ne pas être victimes aujourd'hui.
Merci beaucoup Maître Francesca Sata, Maître Thibaut Kurzawa et puis Lucas Burel d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire Le Skouarnec, une trajectoire sombre qui suscite encore bien des questions. Les procès à venir y répondront peut-être. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Vivian Lecuivre à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir ensemble cette heure du crime.